Bonjour à toutes et à tous, Didier Delatte sur IDFM 98 pour un nouveau rendez-vous compte. Des rencontres inattendues qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes, des projets solidaires partagés, des créations originales qui autour de nous enrichissent notre présent. C'est ici et maintenant.
Tous les animaux sont frères, petits ou grands, rusés ou naïfs, de poils ou de plumes. Maintenant et à jamais, les animaux sont tous égaux.
Aujourd'hui, vous l'avez peut-être deviné, grâce à cette bande-annonce du film d'animation datant de 1954, adapté du chef-d'œuvre de George Orwell, La ferme des animaux, nous allons évoquer une cause qui m'est particulièrement chère, la cause animale. Pour cela, je reçois au micro d'IDFM, Madame Dushka Mira Markovic. Madame, vous êtes l'une des personnalités les plus compétentes pour en parler. Pourquoi ?
Déjà, merci pour l'invitation. Alors, effectivement... Alors, je ne sais pas si je suis la plus compétente, mais en tout cas, pour parler des animaux, mais en tout cas, en politique, oui, je pense, puisque je suis une des cofondatrices du Parti animaliste, actuellement donc coprésidente et également élue depuis 2014 à la ville de Paris et donc depuis 2020 conseillère de Paris.
Donc, vous êtes cofondatrice du Parti animaliste. Est-ce que vous pouvez nous retracer l'histoire de ce parti qui est somme toute assez récent ?
Alors, l'histoire du parti, elle est assez lointaine quand même maintenant. Elle date quelque part. Alors, on est un jeune parti, puisqu'on a seulement 6 ans. Donc, on existe seulement depuis 6 ans. L'origine du parti, eh bien, elle date de 2014. Parce qu'en fait, on a pris 2 ans en fait, pour construire le parti. Ça a été une longue épopée, puisqu'en fait... C'était une idée qui nous est venue tout simplement de l'inspiration en fait du parti pour les animaux néerlandais qui à l'époque commençait à avoir ses premiers élus et qui est non pas le premier parti consacré aux animaux mais le deuxième puisque le premier ça a été en fait en Allemagne qu'il a été fait. Et donc, on était dans cette inspiration de se dire bah, pourquoi pas essayer de monter un parti pour les animaux en France. Alors moi, à la base, j'étais déjà en politique avec les écologistes et je m'étais dit que c'était probablement le parti le plus approprié pour défendre la question animale. Et puis finalement, en y étant, je me suis rendu compte que chez les écologistes, les animaux n'auront jamais complètement leur place. Et donc qu'il était d'un grand intérêt d'avoir un parti monothématique consacré aux animaux pour tout simplement qu'ils ne soient pas oubliés. Donc on a cofondé, puisqu'on est en fait à la base, nous sommes 7 fondatrices et fondateurs, tous issus du milieu, on va dire, plutôt militant animaliste. Et en ce qui me concerne, j'étais déjà à ma 3e tentative de construction d'un parti consacré aux animaux, puisque j'avais déjà intégré 2 autres groupes qui malheureusement n'ont pas donné naissance à un parti politique, tout simplement parce qu'il manquait probablement des compétences. Et puis le 3e groupe a été le bon. Cette fois, c'est vrai que j'ai fait les choses différemment. D'habitude, j'allais dans des groupes déjà existants. Et puis, pour ce dernier-là, je me suis dit, en fait, il faut que j'arrête d'aller là où il y a des gens qui veulent faire des choses. Il faut que j'arrive à créer mon propre groupe. Et donc, comme ça, on a, avec mon collègue Melvin, on a cherché des gens et on a incorporé au fur et à mesure des personnes. On a essayé de trouver des personnes. Et notamment, grâce à un événement qui s'appelle les Estivales de la question animale, où là, on a réussi à trouver des personnes qui étaient intéressées par la politique, qui étaient intéressées par le projet. Et puis, voilà, de 2, on est arrivé progressivement à 7. Et au bout de 2 ans, on a réussi à créer ce fameux parti politique qui s'appelle le Parti animaliste.
Alors, dans le programme du Parti animaliste, qui est disponible sur votre site internet, vous rappelez que la cause animale est un combat de la nuit des temps et des hommes, ce qui correspond à la définition de notre émission, rendez-vous compte, et vous situez votre démarche dans la lutte, je cite, entre Eros et Thanatos en pleine Grèce antique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
Effectivement, enfin, on peut schématiser un peu ça, c'est-à-dire cette lutte qui existe depuis toujours entre les humains, entre ceux de l'éros, c'est-à-dire ceux qui ont envie de faire le bien, d'être dans la compassion, d'être dans la bienveillance, d'être dans la considération de l'autre, j'ai envie de dire, qui sont dans cette action de la réparation. Et puis, de l'autre côté, on a plutôt cette énergie qui va être celle de la destruction, l'énergie qui va être celle de la violence. Et c'est comment, à un moment donné, par la politique, on essaye de donner du sens et du corps à cette envie, à cette politique du bien. Parce que quelque part, pour moi, le parti animaliste, c'est ça. C'est d'arriver à réduire la souffrance dans le monde, quelle qu'elle soit, en commençant par les plus faibles, c'est-à-dire les animaux.
Alors pour illustrer ce propos, on va entendre une vidéo de campagne du parti animaliste pour les élections législatives de 2022, dans lequel ils, elles et eux désignent les animaux.
Bonjour monsieur, je suis candidate du parti animaliste.
Bonjour, ne votez pas pour moi.
Ne votez pas pour moi.
Bonjour monsieur, ne votez pas pour moi, votez pour les animaux.
Ce chiffre, c'est bien sûr le nombre d'électeurs que nous espérons convaincre en ce moment même avec ce clip. Mais ce chiffre, c'est surtout le nombre d'animaux tués dans les abattoirs français depuis le début de cette vidéo. Alors non, nous ne vous demandons pas de voter pour un candidat de plus, nous vous demandons de voter pour elle, pour lui, pour elle, pour lui, pour lui. Votez pour lui aussi, qui ne sera pas tué dans un abattoir, mais à la chasse. Votez pour lui qui sera tué lors d'une corrida. Votez pour elle qui sera abandonnée car trop âgée. Votez également pour vous car l'élevage intensif est l'incubateur des prochaines grandes pandémies qui menacent l'humanité. Votez pour nos enfants car l'élevage intensif est aussi l'une des industries les plus polluantes au monde. Votez pour nos aînés trop souvent contraints de se séparer de leurs plus fidèles compagnons au moment d'entrer en EHPAD. Votez pour montrer aux responsables politiques que nous sommes nombreux à vouloir que les choses changent. Que la cause animale en politique, c'était 64 000 électeurs au lancement du parti animaliste en 2017. 490 000 en 2019 lors des élections européennes et plusieurs centaines de milliers cette année. Tous prêts à utiliser leur unique bulletin de vote pour que le sort des animaux change enfin.
Bref, ne votez pas pour moi, ni pour moi.
Mais pour eux. Les 12 et 19 juin prochains, votez sans ambiguïté pour les animaux. Votez pour les 421 candidats du parti animaliste.
Alors, qui dit campagne électorale dit aussi affiche. Des affiches forcément différentes de celles des partis traditionnels. Parlez-nous un peu de vos affiches.
Alors, l'affiche, oui, ça a été un grand sujet pour nous de discussion au niveau des fondateurs, puisque notre première élection, c'était en 2017. Donc, c'était juste 6 mois après notre lancement. Donc, c'est très peu de temps, 6 mois. Et donc, on savait que la question de l'affiche allait être primordiale et fondamentale. Et on voulait que ça soit une affiche qui porte sens et qui soit une synthèse, finalement, de ce qu'est le parti animaliste. Et donc, on s'est dit, finalement, quel est le meilleur représentant pour un parti animaliste ? Eh bien, c'est un animal. Donc, on a beaucoup réfléchi et on a voulu que cet animal il soit singulier, ce qui est vraiment très important. Si vous regardez nos affiches, c'est toujours un seul individu animal. Donc, l'espèce peut changer, effectivement, mais en tout cas, c'est un individu. Et puis, c'est un individu qui nous regarde. On essaye toujours d'avoir cette interaction aussi avec cet animal qui est là. Qui raconte une histoire et à travers cet animal, c'est aussi symboliser le fait que ceux qui sont représentés, ceux pour lesquels on va lutter, eh bien, c'est eux, c'est les animaux. Et donc, c'est eux qui sont en avant et que nous, les humains, eh bien, pour la première fois, on va être derrière. Et donc, cette affiche, elle symbolise avant tout, cette prise de pouvoir des animaux en politique.
Avec un slogan qui est particulièrement bien trouvé, je trouve.
Alors effectivement, le slogan aussi, on a pris beaucoup de temps et on a trouvé un slogan qui, je ne sais pas si on en trouvera un mieux que celui-ci, mais c'est effectivement « Les animaux comptent, votre voix aussi », ce qui, dans ce slogan, parle de deux choses. Parle des animaux, c'est-à-dire qu'ils méritent qu'on lutte pour eux et qu'on fasse avancer leurs droits. Donc les animaux comptent. Et puis votre voix aussi, ce qui sous-entend que en fait, la démocratie aussi, elle a un poids, elle a une importance et qu'il faut aussi la considérer. Et c'est aussi un appel aux électeurs d'utiliser ce droit de vote. Voilà, il y a tout ça dans ce slogan, effectivement.
Donc un parti plutôt récent, mais des résultats à la fois électoraux et militants assez satisfaisants, finalement.
Alors honnêtement, en tant que fondatrice, on a toujours... Moi, je sais qu'à chaque fois, j'ai toujours été plus que satisfaite en fait, des résultats. Enfin, pour nous, qu'avons fondé le parti, c'est vrai que ça a été... c'est une aventure extraordinaire. Je veux dire, c'est à chaque fois, je crois en, bien sûr, sinon on ne l'aurait pas fait, hein, si on n'y croyait pas. Mais à chaque fois, on se dit, mais c'est extraordinaire. Il faut savoir qu'au bout de 6 mois, en fait, de création, on a fait nos premières élections. Et là, déjà, on arrivait à obtenir plus de 1,1% dans 50 circonscriptions. Il faut savoir que déjà, c'était un tour de force. On avait 147 candidats à l'époque. Au bout de 6 mois, d'avoir trouvé 147 personnes qui croyaient en notre projet, c'était déjà énorme. On n'avait pas d'argent. On est parti vraiment de rien. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est même les gens quasiment qui ont payé pour avoir les affiches, les bulletins de vote, etc. Enfin, ça a été vraiment un élan citoyen, vraiment, hein. Et de citoyenne. Je vais aller jusque-là parce que ça a été l'élection qui a surtout été portée par des femmes, hein, parce qu'on a eu quasiment 70% des candidates. Enfin, des candidats ou voilà, des candidates qui étaient des femmes à l'époque, en 2017. Et ça a été une aventure extraordinaire. Et ces premiers candidates et candidats ont été extraordinaires parce que c'est eux qui ont vraiment permis de lancer le parti. Donc ça a été une très belle aventure. Ensuite, on a eu les européennes. Là, on a 1,5 million de personnes qui votent pour nous, 2%. C'est énorme. On talonne les communistes qui existent depuis une centaine d'années, quasiment. Donc c'est une aventure extraordinaire. Et puis après, les présidentielles, très belle aventure aussi. Non, franchement, c'est un parti qui est plein de satisfaction, vraiment. C'est une aventure extraordinaire. Et je pense qu'on n'est qu'au début. Il y a tout à faire avec ce parti, il y a tout à créer encore. Et je pense qu'on est dans un mouvement qui ne peut que grandir, oui.
Avec un enthousiasme tel que le vôtre, on peut en être assuré. Alors le parti animaliste est bien un parti politique, hein, vous l'avez démontré, pas simplement parce qu'il se présente aux élections, mais il entend jouer un rôle essentiel dans la défense de la démocratie. C'est dans votre programme, dans vos analyses. En quoi ?
Exactement. En fait, si vous voulez, on part du principe où, à l'heure actuelle, si la démocratie était respectée, il y aurait énormément en fait, de pratiques cruelles qui seraient abolies, en commençant par la corrida, par exemple. Si on avait un référendum sur la corrida, la corrida serait abolie. Si on avait un référendum sur les combats de coqs seraient abolis. De la même manière, je pense qu'énormément de conditions d'élevage, notamment en cage pour les poules ou pour les lapins, ce genre de choses, seraient abolies également. Probablement, la chasse aussi serait abolie. Donc, en fait, ce qu'on est en train de dire là, par là, c'est que finalement, la démocratie, elle est belle, elle est importante, il faut la soutenir, mais qu'elle doit aussi être respectée. Et c'est vrai que dans ce que l'on porte avec le parti animaliste, on porte aussi des mesures dans lesquelles on demande plus de représentativité, finalement, d'un positionnement citoyen sur certains sujets, et c'est le cas pour celui des animaux.
Alors, par exemple, dans votre programme du parti animaliste, qui comporte 14 points précis, ce 14e point s'intitule « Reprendre espoir en notre démocratie », vous venez de le développer, et il établit un lien entre le bien-être animal et l'équilibre global de la société, y compris dans le domaine de la santé et des loisirs. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous préciser les propositions du parti animaliste dans le point « protéger la famille » ?
Alors, protéger la famille, c'est vrai que le programme auquel vous faites référence, c'est notre programme national, puisqu'on a différents types de programmes, notamment pour les européennes, également municipales. Celui-ci, c'est le national. On a voulu, effectivement, dans cet intitulé, déjà signifier le fait que les animaux font partie de la famille. C'est-à-dire que nos animaux de compagnie, ceux qui partagent notre vie, font partie intégrante de la famille. Et donc, c'est pour ça que dans cette, euh, dans ces mesures-là, eh bien, il y a plusieurs choses que l'on souhaite porter, notamment le fait que les animaux doivent faire partie du quotient familial quand on fait le calcul des impôts, que les animaux doivent être aussi considérés au moment des séparations, notamment quand il y a des séparations au niveau d'un couple marié, par exemple, eh bien, que l'animal ne doit pas être considéré comme un meuble, mais vraiment comme un sujet vraiment de... Comme si c'était un enfant, hein, entre guillemets. Il y a toutes les mesures aussi sur avoir une mutuelle aussi pour les animaux. En grosse ligne, c'est ça.
Et vous avez même question pour votre point de programme qui s'intitule « Éviter l'épidémie des pandémies ».
Effectivement, on l'a vu avec le Covid, hein, ça a été une expérience... compliqué pour tout le monde en termes de restrictions de liberté. Et en fait, il y a eu une démonstration hein, qui en fait ce que beaucoup de pandémies viennent en fait de ce qu'on appelle les zoonoses, c'est-à-dire que c'est des épidémies en fait à la base animale qui passent par des chaînons qui nous sont proches et qui passent après à l'humain. Alors très souvent, ça vient des animaux sauvages qui vont être en fait en contact avec des animaux d'élevage. Ces animaux d'élevage vont être en contact avec nous. Et du coup, voilà, on arrive après à avoir ce qu'on appelle des pandémies qui sont d'origine animale. Et donc, dans ce que l'on porte au niveau du parti, c'est de dire qu'on doit prendre ces risques-là au sérieux et on doit faire en sorte bien que ce chaînon qui est celui justement de l'animal d'élevage, de faire en sorte que ce chaînon n'existe plus. C'est-à-dire qu'ici, on est dans un rapport dans lequel plus les animaux sont en concentration, on parle parfois de milliers d'animaux qui sont au même endroit, eh bien, c'est à ce moment-là en fait, que le risque pour les humains existe avec cette proximité et cette concentration, tout simplement, qui ne fait pas sens, en fait. Voilà.
Vous avez également un point de votre programme qui s'intitule « Se divertir sans pervertir ». On a déjà un peu parlé, corrida, combat de coq.
Exactement. Alors, on va changer le titre de cet intitulé. Ça va être plus « sans se pervertir », mais « sans souffrance », en fait. « Se divertir sans faire souffrir ». Ça serait plus ça, en fait, je pense, l'intitulé exact. C'est-à-dire ici, c'est de dénoncer le fait qu'en tant qu'humain, eh bien, on puisse se délecter de certains spectacles qui ne sont pas, en fait, du divertissement, mais qui sont parfois même des actes de barbarie, de cruauté. Je le vois directement avec la corrida. Hein, la corrida, si je fais de la corrida ici à Enghien-les-Bains, eh bien, hop, ça va être acte de cruauté sur un animal. Et par contre, si on fait ça dans le sud, à Nîmes, par exemple, eh bien, là, ici, c'est un spectacle et c'est un divertissement. Donc, on voit bien que cette disparité est un grand problème. Et au-delà de ça, toutes les personnes qui ont regardé une corrida se rendent bien compte que, ou en tout cas, je pense que si on a un minimum... d'empathie et
d'humanité
voilà ou de
sensibilité
ouais de compassion de sensibilité j'ai envie de dire d'intelligence ouais. je vais aller jusque là et bien on se rend bien compte que c'est un spectacle qui est complètement mais horrible et d'un autre temps donc oui il y a les choses qui doivent évoluer et donc dans notre programme on a bien sûr une liste de toutes les non exhaustives, j'imagine, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on ne connaît pas encore, mais des pratiques, effectivement, que les humains utilisent pour se divertir. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la corrida, les combats de coq, mais c'est aussi, malheureusement, les dolphinariums, les cirques, les zoos. Toutes ces situations-là dans lesquelles on met les animaux dans une situation où, dans lesquelles ils sont privés de liberté ou alors dans lesquelles ils sont obligés de faire des actions qui sont ou contre nature ou qui sont forcées. Et donc, pour ces raisons-là, on ne peut pas cautionner. Donc oui, bien sûr, nous sommes contre tous ces types d'activités.
On écoute un extrait de la chanson de Francis Cabrel qui a imaginé ce qui pouvait se passer dans la tête d'un taureau au cours d'une corrida.
Je les entends rire comme je râle, je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Est-ce que ce monde est sérieux ?
Alors, rappelons que Cabrel a écrit les paroles de cette chanson à la sortie d'une corrida à laquelle il avait assisté, qu'il avait profondément indigné. Alors, vous l'avez signalé, au cœur de la région où se pratiquent encore les corridas, disons dans le sud, le parti animaliste n'hésite pas d'ailleurs à s'engager contre cette tradition entre guillemets.
Pour la cause animale, le parti animaliste entre dans la course des municipales à Nîmes. À sa tête, Stéphane Gilly, 48 ans, PDG d'une entreprise dans le solaire photovoltaïque, militant associatif et anti-corrida.
Abolir la corrida, c'est symbolique, mais c'est important. Ça donne une image favorable de la ville. Aujourd'hui, pour moi, Nîmes, c'est une ville formidable, avec un gros patrimoine, mais il y a cette... Je sais pas, il y a cette chose qui pèse sur la tête des Nîmois, qui est cette barbarie.
Le parti, âgé de 3 années, est fortement soutenu par le CRAC, le comité radicalement anti-corrida.
Ce spectacle n'intéresse plus. Les gens viennent à la feria pour faire la fête, pour profiter des animations, pour aller au concert, pour profiter des restaurants, des bars, des bodegas, mais ils ne vont plus au corrida.
Alors vous demandez aussi l'interdiction des combats de coqs, vous l'avez précisé, donc là aussi vous opposez à une tradition ancestrale. Dans quelle région ?
Donc effectivement, là, ce qui concerne les combats de coqs, on parle de la région du Nord. Voilà, il n'y a pas que dans le Sud où il y a des tortionnaires des animaux, il y a aussi dans le Nord où on a des difficultés avec les combats de coqs. On a à peu près, peut-être, on estime à 9000 combats. Là aussi, pareil, hein, une pratique d'un autre âge dans lequel vraiment il y a tellement d'autres manières de se divertir que de faire se battre deux animaux ensemble. Il y a aussi les combats de chiens, hein. On en parle moins parce que c'est pas, on va dire, dit comme une tradition, mais malheureusement il y a également des combats de chiens qui sont organisés et qui sont qui sont des pratiques qu'il faut effectivement interdire.
Alors, extrait d'un reportage de France 3 Hauts-de-France du 16 mars 2021, dans lequel un éleveur de coqs évoque sa fierté lorsque son fils de 12 ans va faire combattre pour la première fois des coqs, en perpétuant bien sûr la tradition familiale.
On écoute. C'est la race qui veut ça. Et les combattants, on les appelle les combattants à cause de ça, parce que c'est des coqs qui veulent se battre. Oui, c'est un vieux, hein, lui, il n'a jamais joué, gardez-le, go. Mais il est brave. C'est un brave garçon. On est sans doute dans les seuls encore à en avoir. Il n'y a plus beaucoup de monde que là, des barbus. Sinon, s'ils ne combattent pas, ils viennent rouges, comme je vous dis, puis quand il est prêt, qui est trop prêt, il fait un coup de sang. Il fait un arrêt cardiaque tellement qu'il est fou, tellement qu'il est prêt. C'est pour ça qu'on est obligé de les jouer, parce que si on ne les joue pas, ils font un arrêt cardiaque. Donne-moi le bâton.
C'est un joueur important aujourd'hui pour Rémi, mais son premier coq au parc. Donc ça va me rappeler des souvenirs, parce que moi, c'est pareil, j'ai mis mon premier coq au parc à 12 ans. Bah, c'est une fierté, parce que moi, je pense que mon père était fier quand j'ai mis mon premier coq au parc, qui a vu que la tradition était transmise dans la famille. Et je pense que j'aurais la même réaction que mon père, je serais fier et qui reprend le flambeau.
Alors, Madame Markovic, que répondez-vous aux partisans de la corrida et des combats de coqs qui agissent au nom des, je cite, « traditions » ? C'est quoi ces histoires de tradition ?
Alors, la bondo, la tradition, hein, c'est-à-dire qu'on l'entend souvent, effectivement. J'ai envie de répondre, bah, vous savez, l'excision aussi est une tradition dans certains pays. Et pourtant, c'est un acte de barbarie. C'est une immonie. C'est un acte vraiment qui est immonde. Donc, on ne peut pas se prévaloir de la tradition pour pouvoir perdurer comme ça sur des activités qui sont... tout simplement des actes de barbarie ou tout simplement des divertissements qui n'ont plus lieu d'être, en fait. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que on ne peut pas appeler la tradition pour sauvegarder, en fait, une activité quand cette activité-là, de fait, est, en fait, elle est néfaste. Donc, bien sûr qu'il faut avancer, bien sûr qu'il faut arrêter tout ça. Et au contraire, à chaque fois qu'on arrête de faire ce type d'agissement, ce type de spectacle ou de pratique, eh bien, on avance. Vous parliez tout à l'heure d'humanité, on avance dans notre humanité, en fait. Donc, allons vers ça. Arrêtons à chaque fois de mettre la violence au cœur de nos activités. Cessons avec ça, en fait, parce que c'est le terreau de tellement de problèmes derrière pour les animaux, pour les humains, pour la planète, pour tout, en fait. Il faut arrêter à chaque fois de vouloir mettre la violence au centre et en faire non seulement un spectacle, mais j'ai même envie de dire de la porter en hérésie. Il faut arrêter.
Alors, vous parlez au micro de Radio Enghien, mais vous n'êtes pas sans ignorer qu'à Enghien, justement, il existe un célèbre hippodrome. Et je crois que le parti animaliste demande l'interdiction des courses hippiques. Alors, justifiez votre position sur Radio Enghien.
Oui, effectivement, c'est des types de pratiques dans lesquelles, je le disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que nous, on est de base contre toute activité dans laquelle les animaux en fait, sont contraints. Et l'équitation, malheureusement, quand elle est mal faite, très souvent, eh bien, c'est de la contrainte. Et ça commence par ce qu'on appelle le fameux débourrage. Alors moi, je ne connaissais pas cette appellation. Et puis, c'est quelqu'un qui fait de l'équitation qui m'a dit « j'ai débourré un cheval ». Je lui ai dit « qu'est-ce que c'est ?» Et là, en fait, je comprends que derrière ce terme très lacunaire, eh bien, finalement, qu'est-ce que l'on a ? Eh bien, on a une pratique dans laquelle eh bien, c'est une contrainte. C'est-à-dire que l'objectif ici est de casser l'animal psychologiquement, de lui faire comprendre qui est le maître, qui décide, qu'est-ce qu'il doit faire, comment accepter le mort, accepter la selle, accepter toutes les indications qu'on va lui demander de faire par la suite. Donc, on voit bien ici que ce premier geste-là, eh bien, c'est de casser cet animal qui, à la base, est un animal sauvage. Moi, j'ai eu la chance de partir en Mongolie et de voir des animaux, des chevaux, en fait, en horde. Et c'est là que je me suis rappelé, ah oui, c'est vrai. En fait, c'est un animal qui vit en groupe. C'est un animal sauvage. C'est un animal qui parcourt des kilomètres et des kilomètres comme il le décide. Et c'est un animal qui est tellement extraordinaire, en fait, de le voir comme ça à l'état sauvage. Et c'est ça, en fait, ce qu'il est normalement. Et donc, oui, l'équitation est... si elle est mal faite, c'est-à-dire si on ne travaille pas avec le cheval sur une éducation, on va dire, positive, un consentement sur ce que l'on fait, ben oui, c'est de la violence aussi, exactement.
Alors, Madame Markovic, vous faites le lien entre lutte pour la protection animale et votre engagement féministe. On écoute un extrait de votre intervention au Conseil de la ville de Paris le 1er août dernier.
Au fond de ma révolte contre les forts, je trouve, du plus loin qu'ils me souviennent, l'horreur des tortures infligées aux bêtes. Et plus l'homme est féroce envers la bête, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent. Ces mots puissants sont un extrait du 11e chapitre des mémoires de Louise Michel. Louise Michel nous confie à travers ces mots qu'à l'aube de son enfance, c'est à partir des souffrances infligées aux animaux qu'elle a théorisé son positionnement politique envers les dominants. Ces expériences de violence ont fait d'elle la personne que l'on connaît. Une combattante de la commune, une figure de l'anarchisme, du féminisme, de l'anticolonialisme et de l'animalisme. Très jeune, elle a identifié une relation de cause à effet entre l'oppression des animaux par les sociétés humaines et les rapports de domination au sein des sociétés humaines. En abolissant la frontière interespèce, elle soulignait « c'est en tuant d'autres êtres vivants qu'on s'accoutume au meurtre de masse ». Les féministes antispécistes dont je suis s'opposent à l'idée qu'il existe des individus qui sont des esclaves par nature. Tout individu humain ou non humain devrait avoir droit au respect de sa vie, de sa liberté, de son autonomie et de son intégrité physique. Alors, chère Louise Michel, chère amie de lutte, chère sœur de cœur, alors oui, tu mérites bien une statue à ton effigie dans le square qui porte ton nom. Je te propose même d'être accompagnée d'un animal, puisque comme tu nous l'as confié dans tes mémoires, tout ce que tu es devenu, tout ce que tu as porté vient d'eux. La lutte des classes et la libération animale ont donc une histoire commune. Merci Louise Michel.
Alors quel rapport faites-vous entre la cause animale et la cause féministe, si je puis dire ?
Il y a eu des études américaines et canadiennes qui font un lien direct entre violences familiales sur les animaux de compagnie et les violences qui vont être faites par ce même individu sur l'enfant, qui va aussi vers des violences sur sa compagne. C'est le même auteur, en fait, qui va être comme ça, agressé de différents types de façons, physiquement, psychologiquement, etc., des individus de la famille. Donc, c'est tout un sujet qui est, je trouve, extrêmement intéressant et bien sûr qu'il faut creuser.
Et notre émission se termine et il me reste à remercier Madame Dushka Markovic, conseillère du 18e arrondissement de Paris et co-présidente, co-fondatrice du Parti Animaliste. Merci de votre combat et bonne continuation. La cause progresse inéluctablement. C'était Didier Delatte sur IDFM. Merci à Francky pour la réalisation. La semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau rendez-vous compte. En attendant, voici Sur le terrain, l'émission qui laisse la parole aux Valdoisiens et qui présente tous les événements de notre département sur IDFM Radio, évidemment.